Il y a vraiment quelque chose dans l'air ce matin. Ça bataille sec. C'est comme ça. On vit dans un combat spirituel depuis le début. Et il y a des dimanches où ça se sent plus fort que d'autres. Aujourd'hui, ça bataille sec, mais moi, je crois que le Seigneur est tellement plus fort, tellement plus grand, que je m'attends à lui pour que sa parole nous touche, que sa parole nous transforme, que sa parole nous enseigne et qu'on ressorte d'ici avec quelque chose de plus. C'est ma prière et c'est la confiance que je place en lui. Alors je vous invite à vous faire violence, à prendre autorité sur vos pensées, à commander à vos pensées de suivre celles du Saint-Esprit. Vous pouvez dire, mais Saint-Esprit, prends les commandes de mes pensées. Seigneur, prends toute autorité sur mon cœur. Permets-moi de recevoir ce que tu as à me dire. N'hésitez pas à le faire. Chaque fois que votre esprit, votre âme, vos pensées partent d'un côté ou de l'autre, faites-vous violente. Violence, mon âme obéit au Saint-Esprit. Laisse-toi diriger par le Saint-Esprit. Je vous ai affiché les textes que je vais utiliser pour cette prédication. On va lire dans Actes. À partir du chapitre 3, à partir du verset 1 à 10, mais en fait, ce que je vais vous partager, c'est bien si ensuite à la maison, vous pouvez le reprendre et lire tout le chapitre 3 et tout le chapitre 4, ça fait vraiment un tout. Enfin, tout fait un tout dans la parole, mais il y a la suite, je ne peux pas vous dire ce matin. Actes 3, les versets 1 à 10, et on va aussi rebondir sur Deutéronome 15, tout le chapitre, mais disons que je vais prendre juste quelques versets à partir de 15-9. Un verset ou un passage dans Lévitique 21, verset 18. 1 Pierre 4, verset 10. Et j'ai mis entre parenthèses, c'est une allusion à Jean 9, les versets 1 à 3 et le verset 34. Voilà, pour ceux qui aimeraient reprendre, ceux qui ont besoin d'avoir les textes à l'avance, vous les avez sous les yeux. J'ai des belles pommes. Elles sont belles, hein? Plus de ça, elles sont bio. Donc ça veut dire que rien à voir avec des votations qui auraient pu avoir lieu dernièrement. N'y voyez rien du tout, n'y voyez pas de parallèle. Mais ce sont des belles pommes qui sont pleines de vitamines, pleines de bons nutriments pour la santé. Elles sont rafraîchissantes, elles nous aident à être en forme, à être en santé. Il y a même un dicton, je ne sais pas si vous le connaissez, qui dit « une pomme par jour éloigne le médecin ». Non pas que les médecins soient mauvais, mais une pomme par jour, si elle est mangée, fait qu'on sera en tellement bonne santé qu'on n'aura plus besoin d'aller chez le médecin. Il y a quelqu'un qui aimerait cette pomme? Josquin? Ok. Voilà, je te donne cette pomme. Tu as le droit de la manger, mais fais attention quand tu arriveras au trognon. Il y a plusieurs façons de manger une pomme. Cette pomme, c'est comme si je l'avais reçue. Je peux la manger. Il y a plusieurs façons de gérer cette pomme. Quand j'arrive au trognon, qu'est-ce que je fais? Soit je le jette. Josquin, il a dit qu'il n'y aurait plus rien à la fin. Tout manger jusqu'au trognon. Je peux le manger. Si on mange le trognon, on va se dire, il n'y a pas de déchets, c'est bien. Bien que le trognon, si on le met au compost, ce n'est pas vraiment du déchet parce que ça se renouvelle. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le trognon? Il y a des pépins. Et qu'est-ce que c'est un pépin? C'est une graine, c'est une semence. Mais en fait, un pépin, c'est un pommier. Hey, c'est un pommier. Un pommier, c'est quoi? C'est un arbre qui porte des pommes. Année après année, des dizaines et des dizaines de pommes. Et dans chaque pomme, il y a beaucoup de pépins, il y a beaucoup de pommiers. Ça, c'est le principe de la multiplication du royaume de Dieu. Dieu nous fait des dons. Il nous donne quelque chose qui nous fait du bien. Une vraie bénédiction. Manger une pomme, c'est une bénédiction. C'est la bénédiction de Dieu. Mais quand je reçois une bénédiction, j'ai la possibilité d'en prendre quelque chose pour le faire fructifier, pour le multiplier. Et ce quelque chose, ce pépin, ce futur pommier que je vois prophétiquement, je peux le semer dans la vie de quelqu'un pour que ce quelqu'un ait sa vie restaurée. Eh bien, c'est le thème de ma prédication de ce matin. Que nous soyons des vecteurs, un canal, des vecteurs de l'action de Jésus-Christ par son Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un pour restaurer sa vie, pour participer à la restauration de sa vie. J'ai la responsabilité de faire fructifier ce qu'on m'a donné. Alors, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as reçu que tu puisses donner? Quelle est cette pomme, ces bénédictions, ces choses dont tu jouis que tu peux donner? Je vous propose d'aller voir ce que Pierre et Jean ont reçu et ce qu'ils ont donné. Nous sommes au début du livre des Actes. On a parcouru l'histoire de Jésus en Galilée, ensuite sur la route qui mène à Jérusalem, ensuite on est resté quelque temps à Jérusalem, on a terminé l'évangile de Luc quand on a parlé de l'ascension, on a fait la transition le jour de la Pentecôte entre la fin de l'évangile de Luc et le début des Actes. Nous sommes maintenant dans le livre des Actes. On est au tout début. Le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, les disciples, les 120, et ils ont commencé à multiplier. L'Église, elle est vraiment à ses balbutiements, elle est en train de se former, mais les chrétiens ne sont même pas encore appelés chrétiens. On est vraiment au début du début. Donc même pour les apôtres, ils sont au début de la révélation. Ils ont commencé à comprendre des choses parce que Jésus leur a ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent les paroles de Dieu. Mais ils sont vraiment au tout début. Et plus ils vont avancer dans leur ministère, plus ils comprendront des choses. Et quand on lit l'épître de Pierre, ou les deux épîtres de Pierre, là on voit que sa compréhension a énormément mûri. Mais là, au chapitre 3, ils sont au tout début. Et Pierre et Jean, ils vont au temple pour prier, parce que c'était la coutume, 3 fois par jour, à 9h du matin, l'après-midi à 15h, et ensuite le soir, il y avait la prière au temple. Ils sont juifs, ils continuent à vivre leur judaïsme jusqu'à ce qu'il y ait des choses qui commencent à se modifier un peu. Et ensuite, on sait qu'en l'an 70, le temple est tombé, les sacrifices se sont de toute façon arrêtés. Mais on est vraiment au début de cette transition. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure, c'est-à-dire 3 heures de l'après-midi. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Nous sommes donc à quelques jours de la Pentecôte, peut-être quelques semaines. Pierre et Jean montent au temple pour prier. Et voilà que, à une porte du temple, il y a un boiteux. Je vais essayer de vous expliquer, elle est où cette belle porte? Cette belle porte du temple, bien qu'en fait, on n'est pas tout à fait sûr. Parce qu'on connaît toutes les portes du temple, elles ont toutes un nom, mais aucune n'a le nom de la belle porte. Donc on ne sait pas laquelle c'est. Mais en fait, si on va par déduction et si on regarde de quoi il est question dans ce texte, on peut se faire une idée. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'époque, rien d'étonnant qu'il y ait des infirmes, des boiteux, des aveugles qui soient à la porte du temple pour demander l'aumône. Le seul fait de demander l'aumône, en fait, quelque part, ils n'avaient pas vraiment le choix. parce qu'il n'y avait pas d'assurance sociale à l'époque. Alors s'il y avait une infirmité physique qui empêchait d'avoir un métier, ce qui était à peu près toujours le cas, eh bien il fallait bien subvenir aux besoins. Et la seule façon de subvenir aux besoins, c'était de tendre la main et de demander quelque chose. Donc ça fait partie de la vie de tous les jours. Mais il y a aussi un commandement. Il y a un commandement dans Deutéronome, le chapitre 15, qui parle du fait que Dieu nous demande, Dieu nous donne même un commandement de subvenir aux besoins de ceux qui sont dans la nécessité pour une infirmité, pour un contexte social difficile. Dans toute la parole, Dieu nous dit de prendre soin du pauvre, de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger, des gens qui sont les plus vulnérables. Je vous lis dans Deutéronome 15, à partir du verset 9, la deuxième partie du verset 9. « Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui opposer un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. » Donne-lui, et que ton cœur ne lui donne point à regret, car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des indigents dans le pays, c'est pourquoi je te donne ce commandement, tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. » Et le chapitre continue, il continue pour expliquer combien c'est important de donner aux pauvres. Alors c'était important d'être là dans le temple où il y a justement des religieux qui vont prier 3 fois par jour parce que ces religieux, ils connaissent la parole et ils savent exactement que s'ils ne donnent pas, ils commettent un péché. Donc ils savent que donner, c'est un acte de justice. Donc ils se rendent compte que s'ils ne donnent pas, ben ils sont pas justes devant Dieu. Donc il faut aller là pour demander « Oh oh, donne-moi quelque chose parce que sinon, tu seras injuste devant Dieu, donc ta louange que tu vas aller présenter à Dieu, elle comptera pour beurre. » Donc c'était vraiment stratégique. Ça touchait au cœur des gens qui entraient dans le temple. Soit ils pouvaient donner parce qu'ils étaient convaincus de le faire, parce que leur cœur était disposé à donner, soit ils donnaient pour se soulager la conscience. Comment fait-on quand on est en face de quelqu'un qui est dans la nécessité et qu'il n'y a que nous qui sommes là? Ça vous est déjà arrivé à la gare, par exemple, à la place du marché, devant une grande enseigne orange, ou dans un endroit où il y a pas mal de monde, et tout à coup, par mégarde, votre regard a croisé celui de quelqu'un qui a réussi à capter votre attention, qui vient vers vous, vous vous arrêtez. « J'ai besoin d'une petite pièce, j'ai pas de travail. » Faites quoi? Il y en a certains qui disent non. Il y en a certains qui sont tellement embarrassés qu'ils ne savent pas quoi faire, pas trop envie de sortir le porte-monnaie devant tout le monde. Si je donne, j'entretiens la mendicité. Si je ne donne pas, la personne, elle n'a rien. Si je donne, ça me donne bonne conscience, mais en même temps, je me culpabilise. Si je ne donne pas, je me culpabilise. Et puis en fait, il a besoin d'autre chose. De toute façon, ça ne va pas changer sa vie. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est difficile. C'est difficile. Ça nous rebouille. Et je pense que c'est bien des fois d'être rebouillé. On n'a pas toujours la solution. J'ai pas une recette miracle. Mais il y a des moments stratégiques où Jésus nous place sur le chemin d'une personne, d'une manière ou d'une autre, pour qu'on puisse faire la différence dans sa vie. Et c'est important de le comprendre. Voilà le temple de Jérusalem. C'est la maquette qu'on peut trouver maintenant au musée du Livre à Jérusalem. Et vous pouvez voir que l'enceinte est vraiment énorme. Quand on parle du temple, de manière générale, c'est toute cette enceinte, le temple, le sanctuaire, là où a lieu l'adoration à Dieu, l'endroit saint et l'endroit très saint, c'est cette partie-là. Donc si vous comparez un petit peu, tout ça c'est des maisons, vous comparez toutes les maisons ici, vous pouvez imaginer que c'est un complexe qui est vraiment énorme. Donc quand il y a du monde ici, mais ils sont minuscules, vous pouvez vraiment imaginer qu'on peut mettre des milliers de personnes. Et ça ici, c'est le parvis des païens. Ça, c'est le parvis ou la cour des femmes. Et ça, c'est la cour d'Israël. Ça veut dire qu'il n'y a pas n'importe qui peut entrer dans le sanctuaire. Il y a seulement des hommes juifs qui peuvent y aller. Seulement des hommes juifs, mais pas n'importe lesquels. Parce qu'il y a une loi dans le Lévitique qui dit que quelqu'un qui porte sur lui une infirmité ne peut pas entrer dans le sanctuaire. Je vous lis dans Lévitique 21, le verset 18. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, boiteux, ayant le nez cornu ou un membre allongé, un homme ayant une fracture au pied ou à la main, un homme bossu ou grêle, ayant une tache à l'œil, la gale, une darte ou les testicules écrasés, tout homme de la race du sacrificateur Aaron qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Il a un défaut corporel, il ne s'approchera point pour offrir l'aliment selon Dieu. Il pourra manger l'aliment de son Dieu, mais il ne pourra pas aller adorer, il ne pourra pas aller sacrifier. Voilà un tout petit peu en plus grand ce qu'on imagine avec cette belle porte, sans en être tout à fait sûr. On pense que c'est celle-ci. On pense que c'est celle-ci parce que justement, l'homme qui demande l'aumône, il est boiteux. Ce qui fait qu'il peut être dans l'enceinte du temple, mais il ne peut pas aller plus loin parce qu'il a un défaut corporel. Alors il se place là, à l'endroit où les gens n'ont pas ces défauts, où les gens vont vraiment aller adorer. Pas là où il y a les marchands du temple et puis vont aller trafiquer. Non, il cible sa demande aux personnes qui ont l'intention d'aller jusque dans le sanctuaire, jusqu'au lieu saint pour adorer le Seigneur. Donc cet homme boiteux, à un endroit stratégique, demande l'aumône. Et là encore, il y a quelque chose qui est vraiment étonnant, parce que dans la Bible, le mot aumône n'existe pas. Pourtant, je vous l'ai lu. Eh bien, il n'existe pas. Si on prend l'Ancien Testament, tous les termes qui sont utilisés pour l'aumône, c'est ouvrir sa main, c'est donner, c'est faire des actes de générosité, mais ce mot aumône n'existe pas. Et dans le Nouveau Testament, ce qu'on a traduit par « aumône » en français, sa vraie traduction, c'est « acte de compassion ». Donc cet homme, quand il tend la main s'attendant à recevoir quelque chose, il s'attend à un acte de compassion. Compassion, souffrir avec. Ça veut dire engager le cœur, pas seulement le porte-monnaie. Mais pour finir, comme chez nous, hein, les mots, les termes, au bout d'un moment, ça devient du jargon, on ne sait même plus ce que ça veut dire, on les utilise, on ne sait même plus ce que ça veut dire. Donc pour lui, demander l'aumône, ça veut dire demander des pièces. C'est ça que ça veut dire. Mais si on va plus loin, ça veut dire acte de compassion. Et Pierre et Jean, ils arrivent, ils passent devant ce boiteux qui leur tend la main. Et le cœur de Pierre n'est pas à donner une pièce pour se dédouaner d'une loi. Le cœur de Pierre, c'est qu'il va faire un acte de compassion. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, dans le temple ou dans le sanctuaire, leur demanda l'aumône, un acte de compassion. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Tout à coup, il se passe quelque chose entre ces hommes. Dans ce tout petit passage, il y a quatre termes qui parlent du fait de regarder, qui parlent de la notion de voir ou de regard. Il y a quelques semaines, Dora nous a parlé du regard de Jésus. Jésus, quand Pierre l'a renié, que le coq a chanté, il a posé un regard de compassion sur Pierre et ça suffit pour que le cœur de Pierre soit convaincu. Eh bien là, il y a aussi un jeu de regard. Cet homme, voyant Pierre et Jean, rien de spécial. Il les voit et pour lui, c'est des anonymes avec l'espoir de recevoir quelque chose. Mais Pierre lui dit « Regarde-nous ». Et même avant, pardon, Pierre fixa les yeux sur lui. Tout à coup, Pierre s'arrête. Il se concentre sur cette personne. Il le fixe, il regarde qui il est et ce qu'il vit, pas seulement ce qu'il demande. Il va regarder beaucoup plus profondément aux besoins de cet homme. Et il lui dit, regarde-nous. Il est en train de lui dire, relève la tête. Tu demandes quelque chose, mais tu ne sais pas que tu as besoin d'autre chose. Relève la tête, regarde à autre chose qu'à tes problèmes. Regarde-nous. Et l'homme les regarde attentivement, mais il s'attend toujours à recevoir quelque chose. Il n'y a rien qui change pour lui. Mais Pierre, lui, il a commencé à s'engager. Pierre, il sait qu'il a reçu une bénédiction de la part du Seigneur. Et il se dit, j'en profite, j'en bénéficie. J'ai compris que le Seigneur est souverainement élevé. Je l'ai vu de mes yeux. Je l'ai vu à l'ascension. Il est monté dans les cieux. J'ai compris la parole qui me dit qu'il est maintenant à la droite de Dieu, qu'il est sacrificateur, qu'il est prophète et qu'il est roi. Et qu'avec sa royauté, il a la puissance, il a l'autorité sur toutes les maladies. Je sais que c'est en lui que j'agis. Alors ces bénédictions qu'il m'a données, je ne vais pas les garder pour moi. Je mange cette pomme pour en recevoir les bénédictions, mais je vais aller planter un pépin dans la vie de cet homme. Je vais aller planter un pommier dans la vie de cet homme. Pierre commence à s'engager. Et après avoir regardé, après avoir considéré cet homme, il va plus loin. Mais qu'est-ce qu'il voit ? Qu'est-ce qu'il voit déjà quand il considère cet homme, quand il s'arrête, quand il commence à s'impliquer dans sa vie? Il voit que cet homme, il est immobile. Il est immobile, il ne peut pas bouger. Il est infirme de naissance. Est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que c'est de la faute de ses parents? Pierre se souvient, dans Jean 9, 1, 3, il se souvient qu'à un moment donné, il y avait un aveugle de naissance. Et les disciples avaient demandé à Jésus, mais qui a péché pour qu'il soit aveugle? Il est né comme ça. Est-ce que c'est lui ou ses parents? Et Jésus a répondu, ce n'est pas que ce soit lui ou ses parents qui ont péché, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées dans sa vie. Et bien là, il a un boiteux de naissance. Ça veut dire, depuis le sein de sa mère, depuis le ventre de sa mère, les pieds de ce monsieur étaient déjà infirmes. Il arrive comme ça dans la vie. C'est irrémédiable. Sa vie, elle est tracée d'avance, c'est l'impasse. Sa vie, c'est « tu iras mendier au temple ». Et on sait, si on lit plus loin, jusqu'au chapitre 4, que cet homme avait déjà plus de 40 ans. Voilà ce que c'était sa vie. Pierre, il voit ça, il est immobile, il ne peut rien faire tout seul, depuis toujours. Il est dans une dépendance sociale, il a besoin de l'argent des autres, et il a besoin qu'on l'amène et qu'on l'installe. Ça veut dire qu'il a besoin qu'un jour, que le soir, on vienne le rechercher et que le lendemain, on l'amène et on l'installe et que le soir, on l'enlève, etc. Il dépend complètement des autres. En plus de ça, il est solitaire. On l'amène. On l'installe. C'est qui, on? Il n'y a même pas un prénom. Il n'y a même pas un lien social. Et il est à l'extérieur. Il est à l'extérieur de la communauté d'Israël. Il est à l'extérieur de la relation avec Dieu. Il est à l'extérieur du sanctuaire. Il ne peut pas entrer. Il a un défaut corporel. Il ne peut pas. Il est exclu. Voilà tout ce que Pierre voit comme s'il scannait la vie de cet homme. Et il lui dit, regarde-nous. Et à ce moment-là, il va plus loin. Il prend la parole. Dans Proverbes 18, 21, je ne l'ai pas noté tout à l'heure, il y a un verset qui dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Et Pierre commence à prendre une parole d'autorité, une parole de puissance, l'autorité de Jésus-Christ. Et il lui dit « Je n'ai ni argent ni or. Je n'ai ni argent et ni or. » Mais quelle frustration! Cet homme qui attend quelque chose, il voit que Pierre le scanne, que Pierre est en train de voir ce qui se passe en lui, il lui dit « j'ai rien ». Mais parce qu'à l'époque, la vertu dans la pensée grecque, la vertu c'était quelque chose de bien plus haut que l'argent et l'or, ce qui veut dire les richesses, la fortune. Et Pierre est en train de dire « j'ai quelque chose de supérieur à l'argent, j'ai quelque chose de supérieur pour toi ». Et le boiteux il comprend rien, il attend. « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Pierre est en train de donner une parole d'autorité qui vient du ciel, une parole d'autorité qui vient du trône où Jésus est assis et où il règne, là où il est au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute infirmité. Et parce qu'il a reçu la puissance du Saint-Esprit que Jésus nous envoie, parce qu'il est le grand prophète qui nous revêt de son Saint-Esprit, Pierre a la puissance de dire à cet homme « Lève-toi et marche ». Mais l'homme ne comprend toujours pas. Alors Pierre va encore plus loin dans son investissement et il lui tend la main droite. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Pierre comprend que cet homme ne peut pas comprendre et il lui donne le petit coup d'envoi. Parfois, il faut aller un peu secouer les gens qui sont dans le besoin, parce qu'ils sont tellement en bas, ils sont tellement au fond du trou qu'ils n'arrivent pas à faire le premier pas. Alors Pierre, il lui donne la main droite, il lui saisit la main droite. C'est la main de l'autorité, c'est la main de la puissance. Il lui serre la main, il lui dit « Lève-toi, lève-toi, réveille-toi, ressuscite ». Voilà ce que ça veut dire, c'est le même terme. Il se leva d'un bond, c'est le même terme qui veut dire se lever, se réveiller, réveiller quelqu'un ou alors ressusciter. Quand on parle de la résurrection de Jésus, il a été ressuscité, c'est le même terme qu'il a été réveillé. Pierre est en train de ressusciter cet homme. Il était dans la mort profonde et il est en train de le ressusciter en lui disant « Lève-toi », en le prenant par la main, en le mettant debout. Et aussitôt, à cause d'un acte de foi, les chevilles de cet homme se fortifient, se remettent en place et d'un bond, il se met à marcher, à sauter et à louer Dieu. Pierre a mangé la pomme. Et parce qu'il en a été rempli, rempli du Saint-Esprit, rempli de la puissance de Dieu, il a pu prendre les pépins qui sont cachés tout au milieu et il a pu planter un pépin dans la vie de cet homme. Et là, il y a toute la vie de l'homme qui est transformée. Ce qu'on voit, c'est que d'un bond, il se met à louer le Seigneur. Il loue pas Pierre, il loue pas Jean, il glorifie pas les disciples. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Cet homme est tellement restauré qu'il comprend que ce ne sont pas des hommes qui l'ont guéri. Ces hommes ont été vecteurs, ça a été un canal, mais celui qui l'a guéri, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est souverainement élevé, qui nous envoie la puissance de son Saint-Esprit pour agir sur terre. C'est ce que Jésus avait annoncé. Est-ce que vous vous souvenez comment ce qu'il a fait au tout début de son ministère? Comment est-ce qu'il a commencé son ministère, Jésus? On a vu ça dans l'évangile de Luc. On se souvient qu'il a été tenté dans le désert, qu'il a proclamé la loi de Dieu pour tenir ferme. Et une fois qu'il est sorti de son désert, rempli du Saint-Esprit, il est entré, comme à son habitude, dans une synagogue. Et là, il y a eu un élément déclencheur. C'est dans Luc 4, dans la synagogue, on lui a tendu le rouleau d'Ésaïe. Il l'a ouvert à Ésaïe 61. Et il a proclamé « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint ». Et vous vous souvenez la suite? Je ne sais plus dans l'ordre, mais pour délivrer les captifs, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les prisonniers. Dans Ésaïe 35, il est question des boiteux qui vont marcher. Ésaïe 35, à partir du verset 5, Ésaïe 35, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert. C'était aussi la prophétie pour les temps que nous vivons. Quand Jésus était sur terre, quand il a commencé son ministère, il a commencé à ouvrir les yeux des aveugles, il a ressuscité des gens, il a guéri des infirmes. Mais il a dit qu'on allait faire des choses encore plus grandes que lui. Lui, c'était une personne à la fois, parce qu'il avait pris un corps d'homme. Mais depuis qu'il est monté au ciel, sur toute la terre, quand il y a des gens qui prennent autorité en son nom, il peut y avoir beaucoup de boiteux qui marchent en même temps. Il peut y avoir beaucoup d'aveugles qui recouvrent la vue. Et il y a la vue physique, mais il y a aussi la vue spirituelle. Il y a les oreilles spirituelles. Comment est-ce qu'on entend le Saint-Esprit? Comment est-ce qu'on marche dans la vie de foi? Ce boiteux, il était boiteux aussi dans sa vie spirituelle. Il pouvait même pas avoir de communion avec Dieu. Il était exclu. Mais là, je ne sais pas si vous avez fait attention, quand il peut marcher, quand il peut sauter, il loue Dieu, il rend gloire à Dieu. Verset 8, il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Il marche dans le temple, il entre avec les disciples dans le temple. Sa vie a été tellement régénérée, tellement restaurée, que maintenant il est propre à la louange, à l'adoration, à la relation directe avec Dieu. Voilà l'œuvre de Pierre. Voilà ce que c'est que de se dire « J'ai reçu quelque chose du Seigneur. Je n'ai rien à moi. J'ai rien. Mais ce que j'ai reçu du Seigneur, ce que j'ai compris, je te le donne. Et ta vie va faire un retournement, un basculement positif. Tu vas entrer dans la vie. Je vais te sortir de la mort pour te faire entrer dans la vie. C'est ce que le Seigneur nous a donné. » Il y a bientôt une année, on a commencé par 21 jours de jeûne et de prière. C'était en septembre, fin août, début septembre. Et depuis, tous les deux semaines, on a ici une soirée de jeûne et de prière. Et on est en train d'apprendre à vivre ces choses. On apprend entre nous, on prie entre nous pour des sujets spécifiques, mais on est aussi en train d'apprendre ces principes spirituels pour que dans notre vie de tous les jours, on puisse l'exercer. Et il y a des exaucements de prière. Et il y en a toujours plus. Et moi, ça me réjouit. Il faut qu'on persévère. Il y a des choses qu'on vit en église de cette manière-là. Et il y a des choses qu'on vit de manière individuelle. C'est tellement important. Et il y a un principe qu'il faut comprendre. C'est très nouveau dans le livre des Actes, c'est très nouveau pour ces premiers chrétiens. C'est que Pierre dit « Ce que je t'ai, je te le donne ». Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Pierre fait appel au nom de Jésus-Christ. Il précise de Nazareth. Ça veut dire celui qui a foulé la terre avec nous, puis qu'on a vu monter au ciel, puis qui nous a envoyé son Saint-Esprit. Celui qui était à Nazareth, qui a grandi là, c'est tout ça qu'il est en train de dire. Pour dire, c'est bien celui-ci. Mais il dit au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas une formule magique. Quand on commence à dire des choses au nom de Jésus-Christ, oh là 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 là, on n'a pas toujours des résultats, parce que ce n'est pas une formule magique. Mais parce que Pierre s'est nourri, il était complètement nourri aussi de l'Ancien Testament qui annonçait les choses nouvelles du Nouveau, parce qu'il connaissait tellement bien cette parole, il en était tellement nourri, qu'il savait de quel nom il parlait. Il savait que c'était ce nom de Exode 3.14, ce nom de, quand Moïse il se trouve devant le buisson ardent qui dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis celui qui suis. » Voilà le nom de l'Éternel. Il comprend que Jésus, c'est ce nom-là. Il comprend que Jésus est Dieu. Il comprend que Jésus, il est élevé, qu'il est le roi des rois, qu'il n'y a pas de nom plus haut que son nom. Il est tellement rempli de ses révélations qu'en fait, il fait appel à la juridiction divine dans la vie de cet homme. Voilà ce qu'il fait, Pierre. Il s'adresse aux puissances spirituelles. Je fais appel à ces puissances spirituelles, la puissance de Dieu, à sa sphère de juridiction que Jésus a acquise à la croix. Et je fais appel et je place cet homme devant le trône de Dieu, devant son trône de justice. Et parce que Jésus s'est donné, Jésus manifeste la résurrection spirituelle de cet homme et sa restauration physique. Voilà pourquoi il faut manger une pomme quand on en reçoit une. Et voilà pourquoi il ne faut pas manger le trognon. Il faut aller planter les pépins. Il faut aller planter les pépins. Qu'on soit exhorté à manger les pommes, à manger la parole de Dieu, à comprendre ses principes. Et quand on ne les comprend pas, de demander la révélation du Seigneur, la révélation du Saint-Esprit. C'est un travail de tous les jours, c'est un travail quotidien, c'est notre fitness spirituelle. Qu'on le sache pour ne pas se décourager. Plutôt que de dire « j'y arrive pas », ben non, tu ne peux pas y arriver du premier coup. Peut-être tu y arriveras du premier coup, mais le lendemain ça ne marchera plus. Parce qu'on doit s'entraîner, parce qu'on doit cultiver notre relation avec le Seigneur, parce qu'on doit manger cette parole quotidiennement, quotidiennement être en relation avec lui. Mais quotidiennement, il fait son travail en nous. Et tout à coup, quand on se trouve dans la situation, on a ce qu'il faut. On a les pépins à disposition pour les mettre dans une bonne terre. Et on a ce qu'il faut pour arroser cette terre. Et on a ce qu'il faut pour mettre un tuteur. Et on a tout ce qu'il faut pour accompagner la personne. Ça peut être ces gens qu'on trouve à la gare, à place du marché. Ça peut être tous ces bulletins de versement qui arrivent dans nos boîtes aux lettres, surtout en fin d'année. Mais ça peut être une personne de notre entourage qui ne connaît encore pas le Seigneur. Ça peut être une situation bloquée pour laquelle on va se mettre à genoux devant Dieu pendant des jours, peut-être des semaines, peut-être des mois, jusqu'à ce qu'on reçoive la révélation du Saint-Esprit qui nous dit « prie de cette manière-là, agis de cette manière-là, envoie-lui un mot, dis-lui que tu penses à elle, prends le téléphone juste pour voir comment ça va ». Ça peut être des petites choses, mais tout à coup, au bon moment, tchac, ça fait la différence. Il y a des personnes qui ont été relevées complètement parce qu'ils ont reçu un téléphone au bon moment. Il y a des personnes qui ont été tellement touchées parce que tout à coup, ils ont reçu un message. Un courrier, une lettre, une visite. On a tous reçu quelque chose. On a reçu quelque chose pour apprendre à prier efficacement avec l'appui du Saint-Esprit et de la parole. Mais on a aussi tous reçu des dons différents. Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu as reçu que tu peux donner? Je vais terminer avec un verset de l'apôtre Pierre. 1 Pierre 4, le verset 10. Et je termine comme une exhortation pour chacun d'entre nous. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Amen. Je vous propose de prier. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour la puissance de ta parole. Tu es la parole vivante. Tu es la parole qui te révèle, qui révèle quel est ton nom, qui révèle qui tu es, qui révèle ta position élevée. Seigneur, merci pour les exemples qu'ont été tes disciples. Merci pour tous les témoins de la foi que tu nous as donnés. Merci pour le don de ton Saint-Esprit qui nous donne la puissance de continuer l'œuvre que tu as commencée. Merci parce que tu nous as donné le pouvoir d'ouvrir les yeux des aveugles, d'ouvrir les oreilles des sourds, de relever les personnes boiteuses, infirmes. Tu nous as donné la puissance de changer des vies, de faire la différence dans des vies. Seigneur, tu nous as donné la possibilité de te connaître, de bénéficier de tes bénédictions, d'être restauré en toi. Jésus, sois élevé. À toi la gloire. Les personnes qui aimeraient faire un acte d'engagement qui se disent, mais là, il y a un truc pour moi, il y a quelque chose pour moi, il y a quelque chose que j'aimerais mettre en pratique, j'aimerais aller plus loin dans ce que j'ai reçu. S'il y a des personnes qui se disent, moi, je veux donner ce que j'ai reçu, que ce soit dans la prière ou d'une autre manière, je prends la décision de m'engager davantage, d'aller plus profondément, je vous invite à vous lever. Que vous soyez ici, à Nord-Sensèze, que vous soyez à la maison, ça fait pas de différence. C'est un acte que vous faites devant le Seigneur. Seigneur, moi je suis debout devant toi. Je suis debout avec les autres personnes qui se sont levées, que ce soit à la maison ou que ce soit ici à Nord-Sensèze. Seigneur, tu connais notre cœur à chacun d'entre nous. Et je te demande ton aide, je te demande l'assistance de ton Saint-Esprit, que ta puissance se déverse sur nous, sur notre entendement, sur nos pensées. Je te demande de restaurer notre âme, de renouveler notre intelligence, d'illuminer les yeux de notre cœur. Donne-nous les révélations dont nous avons besoin pour que nous puissions agir dans la vie de tous les jours avec la force que tu nous donnes, avec l'inspiration que tu nous donnes, avec la puissance de ton Saint-Esprit, la puissance de ta parole. Je demande que nous puissions aller toujours plus profondément dans notre relation avec toi, dans notre vie de prière, que nous soyons des vecteurs de ta puissance, de la restauration des vies, que l'action de ton Saint-Esprit puisse passer au travers de nous pour que tu te manifestes, pour qu'il y ait encore beaucoup de boiteux à la belle porte qui soient relevés, qui soient ressuscités, qui soient changés, qui soient transformés. Je te demande, Seigneur, que cette église soit une église qui se lève, une église qui soit convaincue de ta puissance, une église qui soit convaincue de péché, de justice, de jugement et qui mette sa vie en ordre. Une église qui soit convaincue des bénédictions, qui soit convaincue d'un esprit de sainteté, d'un esprit de service, d'un esprit de générosité. Je te demande que cette église fasse la différence dans la ville, qu'elle fasse la différence dans toute cette région. Que ton esprit puisse répondre à travers nos vies, dans la vie de ceux qui en ont besoin, de ceux que tu places sur notre chemin et que nous placions dans ta juridiction, pour que tu sois visible, Jésus, pour que tu sois reflété, pour que tu rayonnes, que cette église soit comme une lumière dans la nuit, une lumière sur la ville pour être un sujet de bénédiction. Et que ce soit toi qui sois loué, que ce soit toi qui sois élevé, que ce soit toi qui sois glorifié. Viens convaincre nos cœurs, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen.